Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. But I'm planning to go away. Now I am real old, don't you know? Born 10,000 years ago.
Les dinosaures sont avec vous.
Quand on entend roucouler sur Canal Sud 92.2,
c'est qu'on a ouvert la volière. Sauf qu'on n'a pas d'aile. On n'a pas d'aile. On a que des gros culs. Mais bon, voilà.
Et de la merde va tomber du ciel, je peux vous le dire.
Bon, attends. Il faudrait supposer que Canal Sud est dans le ciel, ce qui n'est pas le cas pour le moment, heureusement. Donc, ce qui va tomber sur les ondes, c'est quand même une heure et demie de rock lourd, ça c'est sûr. Des genres millésime 68-76, car c'est la spécialité bébé dinosaure que vous connaissez bien depuis longtemps. Et on va revenir peut-être ce soir à l'origine du nom des Hammersmith Gorillaz, le groupe de Jesse Hector.
C'est une enquête que tu as menée cette semaine.
Ouais, alors j'ai mené l'enquête. Enfin bon, j'ai fait quelques recherches Google, hein, mon pauvre ami. Et donc, on s'est rendu compte que si on regarde la page web, la page Wikipédia sur le groupe de Gorillaz, ceux de Jesse Hector, qui s'appelait au départ de Hammersmith Gorillaz, d'après Hammersmith, un quartier de Londres connu pour sa salle de concert, le Hammersmith Odeon. Et aussi pour une tradition d'être un quartier plutôt prolo, avec un côté même un peu radical, anti-autorité, etc., anti-police. Bon. Et donc les Hammersmith Gorillaz auraient tiré leur nom d'après la page Wikipédia qui leur est consacrée, avant de devenir les Gorillaz tout court. Auraient tiré leur nom des Hammersmith Gorillaz, qui auraient été un groupe d'extrême-gauche, du début des années 70, fin des années 60, d'extrême-gauche pro-castriste, qui était actif dans ce quartier. Le problème, c'est que je ne suis pas arrivé à trouver la moindre autre référence à des Hammersmith Gorillaz nulle part sur Internet, mais bon, nulle part sur Internet, c'est un peu risqué de le dire, et puis je n'ai pas exploré les bibliothèques londoniennes. Pour savoir, mais enfin, par exemple, la société d'histoire du quartier de Hammersmith, ça existe, hein, ça existe. Il y a des passionnés d'histoire locale, micro-locale du quartier, ne dit rien là-dessus. Hein. Bon, il parle de lutte syndicale, il parle d'incidents avec la police, parce qu'il y avait des bandes, disons, de voyous, peut-être à une époque. Mais Hammersmith Gorillaz, pas un mot. Le seul autre contexte dans lequel on retrouve le titre, le nom de Hammersmith Gorillaz, c'est la chanson qu'on vous a passée la semaine dernière, là, du groupe Third World War, qui sur son deuxième album avait cette chanson un peu controversée parce qu'il commençait à dire j'ai ce qu'il te faut pour descendre des flics, un fusil à canoncier qui tire 5 fois, bon, bref. Et en plus, sur ce même album, il y a une chanson qui s'appelle Castro. Il y avait des textes assez rugueux, hein, Third World War, qui était pourtant un groupe fondé en studio avec des musiciens expérimentés, qui faisait un truc qui aurait pu être assez léché, mais qui était quand même assez brut, un peu, tu vois, un peu façon Pink Ferries ou presque Stack Wadi, mais musicalement beaucoup plus quand même compétent que Stack Wadi, hein, faut pas déconner. Donc, bref, ma conclusion pour le moment et temporairement, c'est que les Hammersmith Guerrilla, c'est surtout une chanson du groupe Third World War.
Bon, bah, je compte sur toi voilà. Pour mener l'enquête une semaine de plus.
Je continuerai à chercher, ouais.
Et la prochaine fois, moi, je ne serai pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois, il faudra amener quand même les Hammersmith Gorillaz, le groupe.
J'ai ça aussi, quelque part, et même sous ce nom-là, puisqu'il y a eu une compilation qui a été sortie, tu sais, qui a repris les quelques premiers disques qui avaient le nom avec Hammersmith.
Leur premier 45 tours était sorti sous ce nom-là.
Plus des enregistrements non publiés qui ont été repris sur ce CD, tu sais.
Mais là, on va revenir, si je m'ai compris.
Et je crois que ce CD a même quelques enregistrements de Mont-de-Marsan.
Ah, bah dis donc. Alors ça, j'ai jamais vu, par contre. Jamais entendu, en tout cas.
Bah écoute, je te montrerai. Enfin, ouais, c'est
une compile des Gorillaz.
Ouais, d'accord. Voilà, une compile qui est sortie je sais plus où, enfin, que j'ai dans un coin.
J'ai perdu mon morceau des Dames de Mont-de-Marsan 76, là. Dont je t'avais parlé. C'est le cas de le dire. Mais bon, là, on s'égare complètement.
On s'égare totalement. Donc, on va s'écouter les Hammersmith. Non, on va s'écouter les Third World War sur un single qui s'appelle Urban Rock et qui dépote aussi.
Yeah.
Voilà, Third World War, qui avait été fondé par le Terry Stump, hein, qui était l'auteur des chansons. Et il y avait un ancien bassiste de Thunderclap Newman. Bon, ça t'intéresse peut-être beaucoup. À l'époque, la presse n'aimait pas trop. Hein. Il y a eu un critique de Melody Maker qui s'appelait Roy Hollingworth qui a écrit « C'est le plus mauvais groupe que j'ai jamais entendu sur scène. Ça me donnait envie de m'immerger dans la vodka, de me mettre le feu et de jeter mon corps depuis un balcon du théâtre pour protester. »
Oh bah c'est plutôt positif ça, comme.
Et alors effectivement, on avait raconté, leur deuxième album avait été refusé par leur compagnie de disques à cause d'un morceau qu'on n'a pas encore écouté qui s'appelle « Le blues du matraquage des vieilles dames ». Je crois raconte que coshing old lady bloom, coche c'est une matraque molle, donc assommer les vieilles dames, je crois, pour leur piquer leur sac, des trucs comme ça. Et puis bien sûr le fameux Hammersmith Guerrilla qu'on s'est écouté en version intégrale la semaine dernière. Et Pete Townshend, lui, qui connaissait bien Thunderclap Newman, hein, puisqu'il avait aidé à fonder le groupe, a quand même récupéré ce deuxième album qui est sorti sur Track Records, mais un an après avoir été fait. Et donc entre-temps, le groupe s'était plus ou moins
défait. Mais il existe quand même, quoi.
Alors, le deuxième album existe et je l'ai récupéré sur Internet.
Ah, c'est sûr, oui, d'accord.
Fall World War 2. Et le premier album, je faudrait chercher. C'est pas des disques très évidents à trouver. Mais je pense qu'il y a eu des rééditions, mais bon. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoute, on va filer en Australie pour un petit peu l'équivalent de cette scène entre un peu le hard, le proto-punk... du début des 70s, avec les Colored Balls à nouveau. Donc le groupe de Lobby Lloyd, hein, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Là. Et un morceau qu'on a peut-être déjà écouté, je ne me souviens plus, mais dont on s'écoutera une reprise tout à l'heure. Là. Donc c'est un très bon prétexte pour le réécouter au cas où on l'est déjà passé. C'est le morceau Human Being. Rien à voir avec celui, avec le morceau du même titre des New York Dolls. C'était sur leur album Ball Power en 73. Ouais, ça démarre très velu et puis un final très qui monte, très calme, mais qui monte là, de manière assez flamboyante. Alors, ça nous coûtera donc tout à l'heure une reprise par un autre groupe australien, mais d'une autre génération. Human Being, donc les Colored Balls en 73.
Are you more being? Are you more being? I'm not on your
Cette fin, c'est beau comme du Buck Dharma.
C'était des grosses brutes, mais ça veut aussi de temps en temps avoir des sons éthérés comme ça. C'était donc Colored Balls avec le morceau Human Being dont on s'écoutera une reprise tout à l'heure.
Eh bien, tu sais que les rubriques nécrologiques forment un peu, comment dire, le pain sur la planche de Bébé Dinosaure. Et il y en a une qu'on a ratée, et je suis tout déçu parce que c'était un groupe que j'admire beaucoup. Le leader de Budgie, Buck Shelley, est décédé en janvier. Il avait des problèmes cardiaques depuis une dizaine d'années, hein, des problèmes sérieux d'anéurisme de l'aorte, semble-t-il. Tu sais, j'ai fait appel à mon cerveau second, là, du coup. Et donc, on va se passer un petit morceau de Budgie. Voilà, c'est sur un pirate que j'ai beaucoup exploité, mais celui-là, on ne s'est pas encore passé. Et en plus, c'est un des bons morceaux de Budgie, c'est un des morceaux célèbres de Budgie, parce qu'il a été repris beaucoup plus tard par Metallica. Ça s'appelle Bread Fan. C'était à Saint-Louis en 1976. C'est un peu long.
This is something called Bread Fan. It's a bit old, bit old.
Thank you.
Budgie. Et donc la voix qu'on entend, hein, c'est celle du chanteur Buck Shelley, décédé en janvier.
Et bien un autre rocker décédé récemment, c'est le batteur des Foo Fighters. Donc, Taylor Hawkins, un truc comme ça. Ouais.
Plus jeune donc lui. Hein,
un peu plus jeune, oui, la cinquantaine. Mort. Les raisons de sa mort n'ont pas été révélées immédiatement. C'était dans un hôtel à Bogota, en Colombie. Une ville dans laquelle le groupe devait jouer. Alors c'est le groupe de Dave Grohl, qui est un ancien Nirvana, un groupe visiblement très populaire.
Qui était le batteur des Nirvana, justement, Dave Grohl.
Oui, c'est ça. Mais je pense que dans les Foo Fighters, oui, il a pris la guitare, quelque chose comme ça. Et Foo Fighters, bon, moi j'avoue que je ne suis pas un grand fan. Mais apparemment, c'est un groupe qui a une certaine notoriété, puisque la nouvelle a fait le tour de tous les journaux, toutes les radios, tous les sites internet. Et donc, voilà, alors après, on a su, je crois qu'il y a aujourd'hui, qu'il y avait eu des analyses sanguines, là, enfin une autopsie, et qu'on avait trouvé une bonne dizaine de substances dans son sang. Donc, des anxiolytiques, du THC, des opiacés, un petit peu de tout, à vrai dire. Donc, c'est peut-être ce mélange-là qui est. entraîné un problème cardiaque, semble-t-il. Il s'était plaint d'une douleur à la poitrine avant d'être amené, dans sa chambre. Et c'est là qu'il est mort, dans la nuit, donc il y a quelques jours. Écoute, ça faisait un petit moment qu'il était quand même dans les Foo Fighters, apparemment. Et ça, semble-t-il, foutu un coup au moral à Dave Grohl et à sa bande. Parce que, apparemment, c'était un gars très sympathique. Qui a fait une overdose il y a 20 ans, donc il s'est tiré. Est-ce que aussi, ça a pas marché. Bref, on va s'écouter les Foo Fighters, qu'on a peut-être déjà écouté une fois ou deux, parce qu'ils font des reprises, ils font pas mal de reprises. Et ils ont fait quelques reprises 70s, je crois me souvenir qu'on les a déjà passées une fois ou deux. Et là, un peu par hasard, je suis tombé sur une reprise d'un groupe qu'on passe tous les dimanches, depuis Halloween dernier, parce que quand c'est dimanche...
C'est Creedence.
C'est Creedence, bien sûr. Et donc sur un album paru en 2005 qui s'appelait 01050525, les Foo Fighters ont repris, ne me demande pas ce que veut dire le titre, les Foo Fighters ont repris Born on the Bayou. C'est justement l'album sur lequel on était la semaine dernière. Donc Born on the Bayou, une reprise relativement fidèle, tu vois, même la voix, ils essaient un petit peu d'imiter la voix de Fogerty, une reprise sympathique de Born on the Bayou, donc par les Foo Fighters en 2005. We'll be right back. Oh, une bonne reprise. Ouais. Oh, ça c'est autre chose. Une...
Ouais. Born on the Bayou. Ouais.
Bonne reprise. Hein.
Ouais, ouais.
Mm-hmm. Foo Fighters, donc, en 2005.
Vigoureuse. Bien, on va se
leur batteur, décédé récemment.
Voilà. Allez, tiens, on va changer un petit peu des rubriques nécrologiques en passant un morceau qui s'appelle Zut, Everything is Over. Bon, ok, tant pis. Non, mais je crois pas que ce soit un décès. Je pense qu'il s'agit d'une rupture amoureuse plutôt. C'est un titre de la Ngozi Family. La Ngozi Family, fabuleux groupe de Zamrock. Un des groupes phares du Zamrock avec sans doute Witch. Et
Lucie Antonia. C'était le trio un peu à l'origine du Zamrock. Witch, Musée Autunia. Et donc la Ngozi Family.
Voilà. Et donc tiré de leur premier album, 45 000 volts en 1975. Everything is over!
Oh,
Everything is over. Donc, la Nosy Family.
Et bien, maintenant, on va s'écouter un morceau de David Peel. Ça faisait longtemps.
Ouais.
Dont je ne connais pas la date d'enregistrement, mais sans doute fin des années 70, début 80, qui n'apparaît que sur une compile de David Peel sortie, je crois, en 2002, quelque chose comme ça, qui était une compile, un énorme coffret de 12 CD, avec sans doute des inédits et des raretés. Et c'est un morceau où le batteur s'appelle Kevin Allen. Alias J.J. Allen, bien sûr.
Ah oui, d'accord. Oui.
On avait parlé des liens entre David Peel et J.J. Allen. En fait, le premier album des Jabbers, un des premiers groupes de J.J. Allen, enfin, il y en avait déjà eu 5 ou 6 avant, mais bon, et puis il en aura une dizaine après. Les Jabbers, le premier album des Jabbers est paru sur le label de David Peel. Il avait créé un label qui s'appelait Orange Records, où il sortait essentiellement ses propres disques. Mais il avait sorti aussi ce premier album de J.J. Allen, donc ils étaient assez proches, hein, finalement. J.J. Allen a repris plus tard un morceau de David Peel, ça on s'écoutera un de ces quatre. Et bon, J.J. Allen, on sait ce qu'il est devenu, hein, cette espèce de monstre qui faisait des concerts apocalyptiques, une espèce de, enfin, des tendances sadomaso et un peu psychopathe, quoi. Hein. Par la suite, les Murder Junkies, c'était quand même une espèce de hardcore brutasse avec J.J. Allen qui éructait des vocaux abominables et des concerts qui duraient 15 minutes avant la baston, quoi, en gros. Durant lesquels, enfin, après avoir bouffé les laxatifs, il se répandait sur scène, etc. C'est ça, J.J. Allen, hein. C'est un phénomène, une sorte de phénomène de foire du punk qui a eu. Enfin, il s'est créé une légende, hein, malgré tout. Mais à ses débuts, les Jabbers, c'est un groupe punk très teigneux, hein, très rentre-dedans, très speed, mais très bon, en fait. Et puis, il y avait des tas de musiciens qui gravitaient autour. Par exemple, Cheetah Chrome. J.J. Allen a joué pour Cheetah Chrome, qui lui a demandé de venir dans son groupe. Les Dead Boys n'existaient plus. Et J.J. Allen a refusé. Il y avait le MC2 qui joue sur certains morceaux de J.J. Allen. Donc, le MC2, c'était Dennis Thompson, le batteur du MC5, et Wayne Kramer. Guitariste de MC5. Il y avait d'autres musiciens comme ça qui gravitaient autour, et autour de David Peel aussi. Wayne Kramer et Dennis Thompson auraient joué pour David Peel aussi. Bref, c'était quand même un musicien qui était pris au sérieux, J.J. Allen. Et bon, par la suite, disons que c'est son enfance chaotique et ses troubles mentaux ont pris le dessus, on va dire, quoi. Donc on va s'écouter J.J. Allen à la batterie, avec David Peel aux vocaux, le bassiste, je crois, des Jabbers, et joue aussi sur ce morceau. Et le guitariste est un vieux pote de David Peel qui devait jouer dans Lower East Side aussi, enfin un vieux complice à lui en tout cas. La date donc d'enregistrement, je ne la connais pas. Ce morceau apparaît aussi, paraît-il, sur certaines versions du premier album de J.J. Allen, des Jabbers, mais dans une version plus courte. Bon, là, c'est la version longue, je vous rassure. Hein. Mm-hmm. Et le titre, c'est quand même, c'est très philosophique. Hein. Ça s'appelle « What a drag it is to be dead ». David Peel avec J.J. Allen à la batterie.
Grass. I'm the future, not the past. pretend to be dead. What a drag it is to be dead. What a drag it is to be dead. Till they're smoking marijuana. Cause I am the biggest freak, getting high on killer weed. Father, please sell me heroin. I need some junk so I can live.
Some help to turn me on so I can hide where I belong. dragon tends to be dead.
Father, let me OD. Père, laisse-moi avoir une overdose, quoi. C'est bon.
Poésie de David Peel.
What a drag it is to be dead. Eh ben, écoute.
JJ Aline est arrivé, lui. Hein.
Voilà.
Overdose à 36 voilà. ans.
Et qu'est-ce que tu veux à 36 ans, ouais, quand même. C'est... Il a vieilli vite, quand même. Si je me rappelle les quelques images que j'ai vues de lui, il avait l'air de faire plus que ça, mais bon.
Ah ben à la fin, oui. Ouais. Enfin, il était plus que plaie, contusion. Il était quasiment défiguré, quoi, par tous ces excès.
Eh bien, mais qu'est-ce que tu veux, comme disait Messi, comme disait Georges Brassens, mais si l'on ne mourait pas, c'est moi qui crèverais de faim. Et les bébés dinosaures n'auraient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, je continue ma rubrique nécrologique sur Gary Brooker, qui fut surtout le chanteur et leader et pianiste de Procol Harum, avec un 45 tours. C'est mon 45 tours pourri de la soirée. La face B d'un 45 tours qu'il a sorti en 1981, si je me souviens bien, ou si je ne me souviens pas. Si, si, 81, c'est ça. Le 45 tours s'appelait Home Lovin'. Je pense qu'il n'y avait rien de très remarquable. Et la face B, peut-être rien non plus, mais elle est plus rigolote. Elle s'appelle Chasing for the Chop. un petit bout de la carrière solo de Gary Brooker après Procol Harum, Chasing for the Chop, 1981.
Petit jingle maintenant. Mm-hmm. Like a rolling stone. Like a rolling stone. Like the FBI. La rubrique Digit, donc en hommage à l'émission de radio et animée par Gilda pendant plusieurs décennies à laquelle nous avons participé. Et Gilda était un grand fan de justement J.J. Allin. D'ailleurs, dans le bouquin qui est sorti. Il y a quelques mois, là, il avait fait une sélection d'articles dans Digit et il avait choisi, parmi tous ces articles, celui consacré à J.J. Allin, avec notamment une interview du révérend Michael Edison, tu sais, le batteur des Ranchers.
Je me souviens bien, voilà. Je pense que je l'avais transcrit et traduit à la demande de Tatan. Possible, oui.
Voilà, qui avait côtoyé J.J. Allin et qui racontait un peu sa vision du personnage. Et donc, on passait du J.J. Allin assez régulièrement à Digit. Alors de toute sa discographie avec les Murder Junkies là, moi j'avoue que ça c'est quand même assez rude. Après il a eu une période aussi où il a joué avec Anticine. Bon, c'est assez rugueux aussi, mais par contre ce double album sorti sur New Rose qui rassemblait des 45 tours, des morceaux enregistrés au début disons de la carrière de J.J. Allin, c'est là-dessus qu'il y a certains morceaux auxquels participent Wayne Kramer notamment et Dennis Thompson. Ce double album là quand même c'est quelque chose d'assez énorme. Et puis il y avait l'album des Jabbers qui est très bon aussi, hein. D'ailleurs les Ranchers, le groupe de Michael Edison, avait repris un des morceaux de J.J. Allin, I Need Adventure, sur un de leurs premiers albums. Et là on va s'écouter les Jabbers, donc J.J. Allin au début de sa carrière on va dire, J.J. Allin and the Jabbers au Rat, Live at the Rat.
Ah, à Boston.
À Boston, ouais, en mai 1980. Et quand même, comme on est au bébé dinosaure, j'ai choisi leur reprise... Les Stooges, I Got Right. J.J. Allin et les Jabbers. Tu vas voir, ils savaient chanter quand même. We'll be right back. acoustique.
Voilà.
C'était les Jabbers, donc, avec JJ Lynn, vocaux.
Mmh. Et bien, puisqu'on est à rendre hommage au grand nom du punk, tiens, passe-nous le morceau suivant, puis on devinera qui c'est qui l'a fait, en fait.
Attends.
C'est le CD numéro 2.
She's got
c'était John Fogerty.
Surprenant.
Et ouais, John Fogerty pastichant les Ramones, grosso modo.
Oui, en gros. Oui.
Hein, avec plein de petits clins d'œil, des petits riffs qui semblent empruntés aux Sex Pistols. Ce petit break à un moment où il dit « Hey ho, say it and so, she called me up and she put me on hold. » C'est-à-dire « Eh oh, j'y crois pas, elle m'a téléphoné pour me mettre en attente. » Voilà, John Fogerty.
On se demande si la bande a pas été un peu accélérée quand même. Il n'a pas sa voix habituelle.
Ouais. C'est sur l'album de 2004 qui s'appelait Déjà Vu All Over Again.
Et bien, comme promis, une reprise de Human Being des Colored Balls par un autre groupe australien. Alors, la génération d'après, c'est les Bored. Bored, on les a souvent passés aussi parce qu'ils ont fait plein de reprises et plein de reprises 70s. Mais c'est un groupe très teigneux, bon, avec une influence majeure peut-être du Detroit Sound, des Stooges, du MC5, mais aussi le punk, le glam et le gros rock velu australien, bien sûr. Alors, c'est un peu la même génération que les Cosmic Psychos, tu sais, qu'on a écouté, reprenant déjà les Colored Balls, reprenant les Aztecs, reprenant Buffalo. Eux, ils sont venus un tout petit peu après. Cosmic Psycho, c'est en 85, je crois, leur premier EP, là, et eux, c'est en 88. Mais c'est la même génération, disons, de groupes velus australiens qui n'hésitaient pas à rendre hommage à leurs aînés. Et donc là, une reprise de Human Being sur le premier EP des Bored, donc en 88. Une reprise de Human Being bien furieuse et assez longue, à vrai dire. C'est parti. Thank you. Human Being, donc des Colored Balls revus et corrigés par Bord sur leur premier EP en 88.
Eh bien, écoute un peu plus de Nécro, mais là, c'est pas un musicien, c'est un auteur de romans, policiers, de science-fiction, fantastique, Joël Houssin.
Ah merde, oui.
Et il vient de mourir.
J'aime bien, c'est. Ouais.
C'est lui qui faisait la série Le Doberman, je crois.
Oui, ouais. J'avais lu plusieurs de ses bouquins dans la série, dans la collection, comment ça s'appelait, Anticipation.
Oui,
Fleuve Noir.
Oui. Oui, il avait fait beaucoup de bouquins dans la collection Anticipation.
Des trucs écrits un peu vite, ouais. mais qui étaient pas mal. Quoi,
et il a fait un excellent bouquin chez Présence du Futur qui s'appelait Le Temps du Twist, qui n'avait rien à voir du tout avec le twist, mais qui était une histoire de voyage dans le temps et d'Uchronie.
Oui, ça me dit quelque chose.
Parce que une Uchronie terrible où Jimmy Page devient peintre.
Ah merde.
Et donc Led Zeppelin n'existe plus. Et il faut absolument rectifier ça si tu veux. Bon, avec tout un tas d'aventures, j'ai un peu oublié les détails, mais c'était un très bon bouquin. Et donc voilà, bon, j'ai appris ça dans Facebook parce que je suis ami Facebook avec beaucoup de gens qui le connaissaient personnellement. Moi, je l'ai jamais rencontré en fait, mais bon. Et donc, on va se passer Jimmy Page avec les Yardbirds. Et dis-moi, tiré d'une émission.
Avant qu'ils deviennent peintres, donc. C'est
avant,
ça
ouais, voilà. Tiré d'une émission. C'est une émission de télévision française. Un truc enregistré en mars 1968. Un peu plus tard. Ouais, 6 août, mars 68, par là. Donc enregistré pour une émission qui s'appelait Bouton Rouge.
Hein,
voilà. Hein, et ça existait. Et donc, cette version, je la tire de la compile I'm a Freak Baby, volume 3, dans laquelle il nous explique qu'en 1967, il y a eu un concert où ils ont eu en première partie Jake Holmes, chanteur folk bien oublié, le pauvre. Et Jake Holmes, le batteur des Yardbirds était venu écouter le concert de Jake Holmes. Et il a dit, putain, c'est bon ça. Hein? Et le lendemain, il va acheter son disque qui s'appelait The Above Ground Sound of Jake Holmes. Et sur ce disque, il y avait la chanson I'm Confused que les Yardbirds ont repris, ont rebaptisé Dazed and Confused. Et qui s'est retrouvé sur le premier album de Led Zeppelin, signé Jimmy Page.
Voilà. Il aurait mieux fait d'être peintre, tiens.
Oh, ben, s'il avait été peintre,
il aurait été faussaire.
Donc, voici les Yardbirds en public à la télé française, jouant Dazed and Confused.
Dazed and Confused, un morceau des Yardbirds par les Yardbirds. Is it stay, is it go? Give me a clue, cause I just want to know. Give me a clue as to where I am at. Feel like a mouse and you act like a cat. I'm starting to crack. If you're out to get
Présentateur de cette émission Bouton Rouge en 1968, ne tarissait pas d'éloges sur les Yardbirds et sur leur morceau, comme il disait, Dazed and Confused, mais malheureusement, il était largement copié sur le morceau de Jake Holmes du presque le même titre, I'm Confused. Où en étions-nous ? La fin de l'émission s'approche, et s'approche aussi l'heure d'écouter le jingle de notre plus célèbre rubrique. Fromage de chèvre pour ce soir. Bon, allez, avec toutes les discussions qui se font en ce moment sur la politique énergétique, un peu enrobée. J'ai ressorti ce disque édité en Bretagne en 1978 à la suite de la catastrophe de la Moco Cadiz, qui s'appelle La Marée Noire, et à laquelle participent bon nombre d'artistes de folk de l'époque. Et on va donc s'écouter, bon, on s'est déjà écouté pas mal de morceaux de ce disque, on va s'écouter Gilles Servat, artiste breton au nom ariégeois. Servat de son nom de famille provient de ses ancêtres qui avaient émigré en Bretagne, je ne sais plus, deux générations avant. Et donc, avec un morceau assez bref, qui va droit au but, il a été écrit pour ce disque, ça s'appelle « C'est la faute du pétrole ». «
C'est la faute au pétrole, dansons la carmagnole. Si tout a augmenté, dansons devant le buffet. Le prix d'achat des livres monte sans s'arrêter. Il essaie de poursuivre la montée du papier. Si le papier augmente, c'est que le prix du bois. C'est une courbe croissante, car la forêt décroît. C'est la faute au pétrole, dansons la carmagnole. Si on a tout coupé, dansons sans s'asphyxier. Le paysan achète à crédit redoublé. Mais il accroît ses dettes en revendant son blé. Son blé vendu à perte, vendu chez les persans. En passant la mer verte à plus 30%. C'est la faute au pétrole, dansons la carmagnole. La folie du marché, dansons pour digérer. La marée galopante de la démographie toujours, toujours augmente et toujours s'amplifie. C'est l'inflation mondiale de la population. Les talons hors d'étale devant l'homme étalon. C'est la faute au pétrole, dansons la carmagnole. Si le bus est complet, dansons sans se bousculer.
Gilles Servat, donc, et il est 23h. Les bébés dinosaures sont donc sur le point de s'achever, mais ne vous inquiétez pas, les bébés dinosaures, d'abord, vous pouvez les réécouter. Vous pouvez nous écouter, bien sûr, en rediffusion dans 8 jours, chaque lundi, de 15h30 à 17h, sur les mêmes 92.2 MHz de Canal Sud. Mais vous pouvez aussi écouter Canal Sud par internet, en vous connectant au site de Canal Sud et en cliquant sur le bouton qui dit « Nous écouter le site de Canal Sud » pour URL www.canalsud.net. Et sur ce site, vous pouvez aussi retrouver les MP3 d'une tripotée d'anciennes émissions de Bébé Dinosaure. Il y en a plus de 500. Alors on nous dit que le disque dur est presque plein. C'est pas la faute au pétrole, là, pour le coup, c'est la faute au dinosaure. Bon, d'accord, on espère qu'on va trouver une solution. Pour le moment, ils y sont toujours. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook des Bébés Dinosaures qui vous donne des liens de téléchargement vers un autre site qui est lui aussi presque plein. Il va falloir faire le ménage. Donc dépêchez-vous, hein, achetez-vous un gros disque dur et copiez toutes les émissions des Bébés Dinosaures. Ça vous occupera jusqu'à la retraite, voire depuis. Pour un certain nombre d'entre vous, oui, d'accord, ok. Bref, il est peut-être temps d'arrêter de repapier, il est peut-être temps d'arrêter de se répéter de façon sénile. Les bébés dinosaures vous retrouveront la semaine prochaine à partir de 21h30 sur les 92.2 MHz de Canal Sud et comme d'habitude sur le site www.canalsud.net avec Tommy Boy en solo. Ouais, Tommy Boy en solo, vous êtes prévenus, c'est comme ça, c'est ce qui va se passer. Et en attendant, un petit générique de fin.
Everybody really likes you, little dinosaur.